10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Thierry Breton, bonjour.
Bonjour.
Hans Scribe, un expert en politique internationale, écrit dans un livre qui s'appelle « Les hommes forts ». Il est temps que l'Europe devienne adulte et apprenne le langage du pouvoir. Et voilà un an que nous sommes en guerre, selon la formule du président Macron, contre un virus qui a mis à terre les économies et les modes de vie. Aujourd'hui, l'heure de la contre-offensive a sonné. Et il faut le rappeler, elle peut se faire grâce à un exploit scientifique mondial. En moins d'un an, plusieurs vaccins ont été établis et validés et ils vont sauver des millions de vies. Mais ce qui sauve, ce ne sont pas seulement les vaccins, c'est aussi la vaccination, c'est-à-dire la capacité à produire et distribuer. Et là, il y a un problème parce que entre en jeu la capacité des États à anticiper, à bousculer les schémas établis et à obliger les laboratoires à passer à contrôler et honorer leur contrat parfois très obscur. Thierry Breton, vous êtes le très actif commissaire européen au vaccin. Vous venez au secours d'une présidente de la commission dépassée. Elle a reconnu elle-même donc avoir négligé l'aspect industriel. On voit que la politique vaccinale européenne est fragilisée. Plusieurs pays de l'Union européenne achètent en direct en se passant maintenant de la permission de l'Europe. L'Italie se reconfine. La France lutte dos au mur contre le reconfinement. Alors, est-ce que confiner et vacciner, c'est maintenant encore les principes pour gagner, ou faut-il admettre que Covid-19 est le nouveau régulateur de la vie humaine? Pour ce grand rendez-vous, je salue Nicolas Barré des Échos, Damien Fleureau de CNews qui ouvre cette émission.
Oui, bonjour Thierry Breton. Hier, lors d'un déplacement en Seine-Saint-Denis, en région parisienne, territoire particulièrement touché par le virus, le Premier ministre est venu à la rencontre de personnel soignant. Écoutez cet échange.
Il faut qu'on se mobilise tous, qu'on soit tous solidaires pour faire face à cette épidémie qui, comme vous dites, joue les prolongations.
Tout à fait.
Avec un variant qui est un peu désagréable, on va dire ça comme ça.
Plus agressif.
Enfin, plus agressif. Et qui vient un peu perturber nos plans. Enfin,
Thierry Breton, on va parler dans un instant de la stratégie vaccinale européenne, mais un an après le premier confinement, c'est l'Italie qui bloque à nouveau son pays, coup rude pour la population. Finalement, c'est cette solution basique et simple qu'on utilise à chaque fois, même un an après.
Bon, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité ce matin. Je vais évidemment vous donner ma perception des choses. Monsieur Darmon a rappelé qu'effectivement, en plus de mes responsabilités à la commission du marché intérieur et du numérique, j'ai désormais, depuis 4 semaines, effectivement, la responsabilité de faire en sorte que les laboratoires qui ont promis les doses de vaccins arrivent en temps et heure, et on va en parler. Je rappelle qu'on a commencé la politique vaccinale en Europe depuis le 1er janvier. Je le rappelle à nos auditeurs, ça fait donc 6 semaines. Je remets tout ça en perspective, je vais être très factuel ce matin avec vous, et je vais donner des chiffres pour vos auditeurs. Je crois que c'est très important de faire ce point d'étape, et merci de m'inviter à le faire. Alors, vous faites référence, Monsieur Fleureau, à ce qui se passe en Italie. J'étais moi-même en Italie la semaine dernière. Je me suis entretenu très souvent, entre-temps évidemment, avec le nouveau Premier ministre, Monsieur Mario Draghi, sur la situation. Il a parfaitement, je dirais, l'évaluation de la situation en main. Et je pense qu'il prend la bonne décision. Il y a une différence fondamentale, Monsieur Darmon, par rapport à ce que vous avez dit et que je ne conteste pas dans votre introduction. Fondamentale par rapport à l'année dernière. Vous l'avez d'abord rappelé, nous avons, pardon de le dire comme ça, mais c'est une réalité, un nombre très important de vaccins désormais sur la planète pour nous sortir de cette situation. 6, 7, 8, 9, 10, 12, et on va encore en avoir. Le sujet maintenant, vous l'avez rappelé, c'est la production. Cette production, évidemment, c'est tout à fait inédit. Vous avez rappelé le terme de guerre. Je prends plutôt, moi, le terme d'économie de guerre, car ce que je vois que la mobilisation nécessaire pour faire en sorte que les vaccins arrivent en temps et heure, c'est vrai que ça me rappelle un peu ce qui a dû être fait dans les moments sombres de notre histoire, où chacun devait se mobiliser, et c'est mon rôle.
Mais du coup, à ce stade, on est encore obligé de confiner, alors, de voilà, fermer certains territoires.
Alors, du coup, à ce stade, effectivement, en Italie, je rappelle qu'en Italie, il y avait encore, pas le cas chez nous, il y avait encore les restaurants qui étaient ouverts, il y avait encore les bars qui étaient ouverts. Je le dis, j'étais à Rome, et c'est vrai que ça vient du bien de voir la semaine dernière les restaurants et les bars ouverts. Le Premier ministre a décidé pour 3 semaines de les fermer désormais, comme chez nous. Et voyez-vous, par rapport à l'année dernière, on n'avait pas de perspective. S'il a décidé de le faire, c'est qu'il sait que pendant ces 3 semaines, évidemment, on va augmenter très significativement la cadence de vaccination. Encore faut-il que chacune et chacun comprenne que, évidemment, c'est l'intérêt, leur intérêt propre, mais l'intérêt collectif de le faire. Donc, évidemment, on sait que, je vous donne des chiffres, parce qu'il faut parler chiffres, pardon, derrière cela, et je parle chiffres en termes de vaccination. Aujourd'hui, on a 67 millions de doses qui ont été distribuées en Europe. Dans 3 semaines, on en aura plus de 100 millions. Et voyez-vous, 14 millions de doses distribuées au mois de janvier, 28 millions distribués au mois de février, 60 millions à peu près distribués en mars. On double tous les mois. C'est une cadence industrielle inédite.
Testé, confiné, vacciné.
Voilà.
C'est la nouvelle formule. Est-ce que ça va s'appliquer à la France ?
Non, je dirais que la formule, c'est évidemment que nous puissions faire en sorte que l'immunité soit atteinte le plus vite possible. Souvenez-vous, nous avons dit que l'objectif, c'est de l'atteindre avant la fin de cet été. C'est mon objectif, moi, en tant que commissaire désormais chargé de cette task force, que de fournir les vaccins pour que les États membres puissent avoir les dispositions. J'espère pour moi que ce sera peut-être même un peu avant. En tout cas, pour moi, c'est vraiment l'objectif. Donc voyez-vous, j'ai entendu que aux États-Unis, on cite,
le 4 juillet.
4 juillet. Voilà, nous, on a toujours 4 ou 6, à 6 semaines de retard par rapport aux États-Unis parce qu'on a démarré 4 semaines de retard par rapport aux États-Unis.
14. On va certainement en parler. Oui, pour bien comprendre ce que vous dites, est-ce que, et avant qu'effectivement Nicolas Barré parle d'AstraZeneca, juste une question sur la situation française. Est-ce que, comme en Italie, il va falloir aussi passer aux restrictions et au freinage beaucoup plus dur pour pouvoir permettre aussi à la vaccination de prendre sa place?
Non, je ne sais pas si on peut dire prendre sa place. La vaccination, elle est lancée. La vaccination, elle aura lieu. La vaccination, l'immunité de notre pays et de notre continent, il sera atteint avant l'automne. Donc, on est effectivement dans cette phase-là. Entre-temps, évidemment, il y a des zones. Parce que c'est vrai que, vous voyez, on parle souvent de la Grande-Bretagne. La situation de la Grande-Bretagne a été tellement dégradée par rapport à la quasi-totalité des pays du monde entier que le virus a beaucoup plus circulé en Grande-Bretagne qu'ailleurs et que donc il y a eu des variants qui ont pu s'installer. On appelle du reste le variant anglais qui a évidemment traversé la Manche. Il ne connaît pas de frontières et que maintenant, on doit lutter contre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les vaccins fonctionnent contre ce variant, mais comme il est un peu plus agressif que le virus d'origine, eh bien, c'est vrai que dans certaines géographies, il faudra effectivement pratiquer des confinements. Mais par rapport, et je le dis à nos auditeurs, c'est très important, par rapport à ce que nous avons tous vécu il y a un an, on a un horizon cette fois-ci. Ce sera évidemment quelques semaines, puisque dans le même temps, on sait que l'immunité progresse et progresse vite.
Et comme vous l'avez dit, vous allez nous expliquer les problèmes industriels d'aujourd'hui. Nicolas Barré.
Et alors, je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes sur le cas AstraZeneca. Je crois que vous parlez tous les jours avec le patron d'AstraZeneca, Pascal Forio.
Avec la quasi-totalité Pascal de tous les fournisseurs de l'Europe, monsieur Barré.
Alors, AstraZeneca vient d'annoncer il y a quelques jours qu'ils allaient réduire leur prévision de livraison de doses à l'Union européenne. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils vous disent vraiment la vérité sur ce qui se passe et sur leur rythme de production ?
Et ça, c'est très important comme question.
C'est très important comme question et c'est effectivement au cœur de mon activité. C'est effectivement de me rendre compte par moi-même de ce qui va bien et de ce qui ne va pas bien, d'en parler directement aux responsables et de corriger dans l'instant ce qui peut l'être ou ce qui, en cas d'espèce, pour AstraZeneca, doit l'être, de mon point de vue. Et donc, sur cette entreprise, puisque vous m'invitez à y parler, cette entreprise est une entreprise avec laquelle la Commission européenne a contractualisé, et beaucoup du reste des pays du monde entier, je le rappelle. Et effectivement, nous avons obtenu l'autorisation de notre agence de santé, très important pour nos auditeurs. On prend vraiment les soins, les précautions maximales en Europe, beaucoup plus que de mon point de vue, c'est mon point de vue, mais de tout ce que je vois partout dans le monde. Je ne dis pas que les autres agences ne sont pas bonnes. Je le dis, les précautions que nous prenons en Europe sont absolument essentielles. Souvenez-vous des débats légitimes sur les conséquences potentielles.
Alors, y a-t-il un scandale AstraZeneca ?
Alors, sur AstraZeneca, autorisation le 29 janvier. Donc, ça fait 6 semaines. Je rappelle du reste par parenthèse que je vais appeler un chat un chat. On avait des petits doutes, on se demandait un peu ce qui se passait avec les doses, etc. Nous avons mis dès le 2 février, en place un instrument, on appelle ça un instrument, pour contrôler les exportations de vaccins en dehors de l'Union européenne, de façon à avoir le moyen de voir très précisément et de rentrer en dialogue avec les entreprises si nous avions des doutes sur, je dirais, l'export de certains vaccins par rapport à l'objectif qui est le leur vis-à-vis de nous. Depuis lors, je peux le dire, il n'y a eu aucune demande, sauf des petits lots de tests d'AstraZeneca, de quitter le continent européen. C'est une bonne chose, je ne suis pas sûr que c'était le cas avant, l'histoire nous le dira.
Mais vous avez dit cette semaine que vous aviez le sentiment qu'ils ne faisaient pas leurs meilleurs efforts pour honorer les contrats.
C'est exactement ce que j'ai dit.
Ça veut dire que vous allez porter plainte contre eux?
C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit qu'effectivement, lorsque, monsieur Barret, lorsque on nous promet 40 millions de livraisons de vaccins au premier trimestre, et que 3 jours avant l'annonce donc hebdomadaire de l'état de l'art, on nous dit non, finalement il n'y en aura que 30 millions parce qu'il y a des retards dans le testing. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la phase de test des vaccins prend plusieurs semaines, et on nous annonce finalement on se rend compte qu'il y a des retards. Je dis que c'est inacceptable, pour moi en tout cas, ou en tout cas incompréhensible, on va dire, parce que s'il y a quelque chose qu'on peut prédire, lorsque les vaccins sont fabriqués, et ils sont fabriqués, c'est que si on a du retard sur la phase de test, c'est qu'il y a sans doute un dysfonctionnement dans la chaîne logistique. Alors la bonne nouvelle, je dis tout de suite à nos auditeurs, c'est pas parce qu'on a du retard sur AstraZeneca qu'on sera en retard sur notre programme de vaccination du premier trimestre, parce qu'il y a aussi des très bonnes nouvelles, par exemple Pfizer, je le dis parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas en parler quand ça se passe bien, produit plus, nettement plus que ce qui était prévu, mais, donc va plus nous livrer. Donc c'est l'intérêt de pouvoir compenser.
Juste avant la
mais sur AstraZeneca, est-ce que vous
engagez là une procédure judiciaire?
Non, on n'en est pas encore là. Moi, vous savez, je suis toujours extrêmement avare de ma parole lorsqu'il s'agit des entreprises, et chacun son rôle. Nous sommes évidemment ceux qui ont contracté, on l'a fait au nom évidemment des États membres, et on l'a fait aussi au nom de nos concitoyens. On leur rend des comptes, et je suis là ce matin pour rendre ces comptes. Mais voyez-vous, une entreprise, ça rend des comptes aussi, le directeur général, mais aussi le conseil d'administration. Lorsqu'on signe un contrat, qui évidemment dépasse, vous l'avez bien compris, de beaucoup, un cadre purement commercial, compte tenu de l'importance, si jamais il y a, me semble-t-il, des incohérences, à moi de les dénoncer, au conseil d'administration de prendre évidemment les mesures qui s'imposent. Je vais vous dire une chose très simple. Je le dis du reste. Le directeur général d'AstraZeneca, aujourd'hui, je ne le critique pas, hein, chacun vit cette situation comme il doit la vivre, est confiné en Australie. Moi, du coup, ça m'impose, mais c'est pas grave, je suis là pour ça, d'avoir des contacts avec lui. Il y a 12 heures de décalage tous les matins, à partir de 4 heures du matin, mais c'est pas grave. Mais voyez-vous, je suis quasiment toutes les semaines sur 2 ou 3 usines. Je vais pas dire que je connais mieux leurs usines qu'eux, mais moi, je suis sur place. Alors, bien sûr, je prends toutes les précautions sanitaires. Je suis testé 3 fois par semaine. Je prends toutes les précautions sanitaires, mais on peut quand même se déplacer. Et j'estime que dans des situations comme celle-ci, il est important que les conseils d'administration veillent que les directeurs généraux soient sur les sites, parce que c'est sur les sites qu'on voit les choses, qu'on peut parler, qu'on règle les solutions. Et bien sûr, j'y suis, mais c'est pas mon rôle à moi, même si je leur dis ce que je vois, c'est pas mon rôle à moi de le faire. Je dirais qu'avec les autres entreprises, ça se passe remarquablement.
Donc c'est pas normal qu'ils soient en Australie.
Juste pour bien comprendre, parce qu'on doit faire la pause.
J'ai dit ce que j'avais à dire.
Il y aura, comment vous allez faire, en un mot, comment vous allez faire pour imposer que ce contrat soit respecté avec AstraZeneca?
Mais encore une fois...
Et après, on doit passer à la pause.
Encore une fois, il y a le contrat, il sera réalisé. Ce que j'ai du mal, évidemment, à comprendre, mais on va attendre les explications. Parce que les explications que j'ai eues ne me satisfont pas, moi qui suis sur le terrain quasiment tous les jours. Ce que je n'accepte pas, c'est les retards. Parce que les livraisons vont avoir lieu, je le dis à nos auditeurs. Mais aujourd'hui, pour moi, ce qui est très important, c'est qu'on tienne les calendriers, même si, attention, c'est très difficile. On parle d'usine, c'est extrêmement sophistiqué et compliqué. C'est très difficile de prédire la prévision, c'est pour ça qu'on a cette chance. On est le seul continent à l'avoir fait, c'est nous qui avons le plus de vaccins au monde, et c'est pour ça qu'on va gagner cette guerre. Nettement mieux que ce qui se passe en Chine, et je ne parle pas de la Russie, on en parlera tout à l'heure.
On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Michaël Darmon.
Et surtout Thierry Breton, commissaire européen, monsieur vaccin européen aujourd'hui, effectivement, comme on vous appelle. Vous venez quand même de donner un horizon inédit. Vous avez dit allaité, on a l'immunité collective ?
L'objectif qui est celui de la Commission, qui a été maintes fois réitéré par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, c'est à la fin de l'été. Alors, vous savez, moi, j'ai engagé avec mes équipes un peu les 1000 sentiers. Il y a énormément d'actions. Et je me suis fixé à moi-même des objectifs pour pouvoir atteindre cet objectif avant. Pourquoi ? Parce que je sais bien, dans la vie, vous savez, j'ai un peu d'expérience industrielle, comme vous le savez. Donc je sais bien qu'il y a toujours des moments, des endroits où ça marche mieux, des endroits où ça marche moins bien. Donc si effectivement toutes les actions, et elles sont très 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 nombreuses, que nous avons engagées avec évidemment les industriels, ceux qui ont aujourd'hui, je rappelle qu'on a quand même 4 vaccins, on va bientôt en avoir 5, si elles fonctionnent dans le bon sens, oui, on pourra l'atteindre avant. Mais gardons l'objectif de la fin de l'été. Sachez que moi, je me bats pour que ce soit atteint avant.
Alors, il y a les retards que vous avez évoqués ce matin, justement, le problème industriel. Ça relance la suspicion sur les négociations de contrats avec certains laboratoires. Et c'est le chancelier donc, autrichien Kurz qui a mis les pieds dans le plat à ce sujet. On écoute, on regarde.
Les Verträge dieses Gremiums sind geheim.
Les contrats sont secrets et je ne les connais donc pas moi-même, mais il y a des indications selon lesquelles il existe une instance, un bazar où des accords supplémentaires ont été conclus entre les États membres et les firmes pharmaceutiques.
Alors Thierry Breton, on voit que certains pays veulent acheter directement des vaccins. La Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque ont déjà approuvé ou vont approuver le vaccin russe Sputnik. Qu'est-ce que vous répondez à ces pays et aux chanceliers Kurz ?
D'abord, comme je savais que c'était une interrogation du chancelier Kurz, vous voyez, je suis allé le voir directement, dès la semaine dernière. Donc j'ai pris mon cartable et puis je suis allé le voir. Puis on a discuté et je crois qu'il a compris. Il a compris une chose très importante. C'est que précisément, d'abord, tous ces contrats, ils sont totalement ouverts, et notamment, parce que c'est normal, aux États membres, bien entendu, ils le connaissent tous, et aussi aux parlementaires. Alors évidemment, comme ce sont des contrats commerciaux, on a un certain nombre de contraintes, évidemment, de sécurité.
Donc, il fait de la politique, en fait, Sébastien Kurz, c'est ça que vous nous dites ce matin.
Je vous dis simplement que, quand j'ai vu qu'il avait des interrogations, je suis allé le voir, il connaît parfaitement le contenu de nos discussions. Et je crois que le problème, il est réglé, y compris du reste sur son voyage en Israël. On s'en est bien expliqué tous les deux.
On va y
maintenant,
revenir.
Maintenant, il y en a effectivement. Il faut bien que nos auditeurs comprennent une chose, parce que je sais que ce n'est pas clair, et c'est pour ça que je suis là pour le dire, parce que ça peut paraître effectivement ambigu. Il y a effectivement ces contrats, 6 laboratoires avec lesquels nous avons contractualisé, pour l'ensemble des pays européens, et ça tombe bien, dans les 6, on sait qu'il y en a déjà 4 et puis bientôt 5 qui fonctionnent. C'est absolument extraordinaire. Et puis, chaque pays a le droit, aujourd'hui, s'il le souhaite, de passer des contrats avec un autre fournisseur. Pas cela. Cela, on s'est tous engagés à ne pas le faire. Mais avec un autre fournisseur de vaccins.
Par exemple, alors, quand vous dites cela, ça veut dire que vous évoquez Sputnik
alors, très
et
bien.
Les Chinois.
Monsieur Barré, par exemple, Sputnik. Alors, un mot sur Sputnik. Moi, j'ai vu que Monsieur Viktor Orban était tenté par ce vaccin. Eh bien, je suis allé voir Monsieur Viktor Orban il y a 10 jours. Donc, on a discuté ensemble. Il m'a dit qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a une proximité géographique. Ça n'aura échappé à personne entre la Hongrie et la Russie, au moins géographique. Et donc, on a discuté. Il m'a dit, voilà, moi, j'aimerais bien avoir plus de vaccins. Et on m'en a promis 500 000. J'ai dit, Monsieur le Premier ministre, vous savez bien que vous n'allez pas les avoir. Aujourd'hui, prenez le cas de la Russie. C'est aujourd'hui le pays qui est dans la situation sanitaire qui est sans doute l'une des plus difficiles. Il n'y a aujourd'hui que 5,5 millions de doses qui ont été administrées en Russie. Ce vaccin... Alors d'abord...
Ce que vous dites, le vaccin Sputnik,
attendez,
il n'est pas opérationnel.
Non, non, non.
Vous
ce que je veux dire d'abord, c'est que ne vous méprenez pas. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les Russes et notamment pour les scientifiques russes. Ce sont d'excellents scientifiques. Ils sont très bons en maths, on le sait, ils sont très bons en physique, ils sont pas mauvais en biochimie, du reste, on le sait également. Ils sont très bons en biologie. Bon, il n'en demeure pas moins que ils ont un institut qui s'appelle Gamaleya qui a fait précisément, qui a inventé ce vaccin, et je pense que c'est un vaccin à double adénovirus, qui est très compliqué à fabriquer, plus compliqué que nos vaccins. Alors, il se trouve qu'il y a peut-être aussi un outil industriel qui n'est pas capable de le faire. Enfin, en tout état de cause, à la fin février, ils n'avaient fabriqué que 10 millions de doses. 10 millions. Bon, et ils ont besoin d'avoir des usines pour les faire. Voilà, et je lui ai demandé combien il avait reçu, M. Orban, de vaccins. Il en avait reçu 40 000, il en espérait 250 000. Combien on lui en livre, notamment avec Pfizer? 11 millions. Vous voyez, il faut toujours remettre les choses en perspective.
Donc vous
Après,
en
je ne critique personne.
Non,
je dis simplement que sur Spoutnik, alors, il y a une demande qui a été faite maintenant à notre autorité de santé, donc on va le regarder. Je rappelle que ça prend du temps hein, de donner, parce qu'il faut faire les choses très, très sérieusement. Il n'en demeure pas moins que quand on voit le taux de vaccination en Russie, la difficulté de fabriquer ce vaccin, c'est normal. Moi, à chaque fois que je vais voir une usine, on me dit qu'il y avait des Russes qui étaient passés pour demander si on pouvait fabriquer leur vaccin. Je vais vous le dire, à la fin de cette année, on aura en Europe, et, écoutez-moi bien, entre 2 et 3 milliards de capacité de production par an.
Pour pouvoir
et donc, il faudra qu'on aide l'Afrique, il faudra qu'on aide la Russie. Alors, moi, je suis de ceux qui disent qu'il faudra bien sûr aider l'Afrique, mais il faudra aussi aider la Russie. Je suis favorable.
On entend vos projections, mais regardez la réalité. Damien Fleurot.
Oui, un sondage qui n'est pas forcément bon pour vous. Vous nous parlez d'un temps long, celui de la fin de l'année, mais aujourd'hui, seuls 6,1% des Européens ont reçu une première injection. On est loin derrière... par exemple les États-Unis, loin derrière les Britanniques, encore plus loin d'un pays comme Israël. Comment est-ce que vous expliquez ce retard? C'est un manque de financement
non.
au départ
Alors c'est très intéressant, cette diapositive, malheureusement sur Europe 1 on ne la verra pas, mais je vous invite à la regarder tout à l'heure.
On vient de la décliner.
Elle est très intéressante. Parce que il faut, bien sûr derrière tout ça, il ne faut pas être dupe. Moi je suis là pour vous donner des faits. Il y a aussi, comment dirais-je, un peu de désinformation, un peu de diplomatie du vaccin. Tenez, vous me parlez d'Israël. Prenons le cas d'Israël. Bien, vous voyez, le cas d'Israël. Tout à l'heure, chacun cite ses auteurs. Monsieur Darmon a cité implicitement un auteur tout à l'heure dans son introduction. Moi, je vais citer monsieur Yuval Noah Harari. Vous le connaissez?
Absolument.
C'est l'un de nos plus grands historiens. Il a écrit, je fais un peu de publicité, mais son livre est exceptionnel. Sapiens, une brève histoire de l'humanité.
Et Homo Deus.
Et également, Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Et voyez-vous, il est professeur, il est israélien bien entendu, il est professeur en Israël, et voilà ce qu'il dit de la politique vaccinale de son pays. Je vous le cite parce que c'est très intéressant. Il dit, malgré toutes ces mesures isolationnistes, Boris Johnson n'est pas parvenu à se prémunir contre le virus. Il dit qu'Israël a été exactement dans la même situation. Israël et le Royaume-Uni, lui, ont par la suite été en première ligne du déploiement des vaccins, mais en tout cas, ils n'ont absolument pas pu rattraper leur retard. Aujourd'hui, en matière de décès, hélas, la Grande-Bretagne, c'est le 6e pays au monde le pire, et Israël le 7e.
Donc vous dites qu'on n'est pas si mal placé.
Et que dit-il? Il dit, Israël se classe en 7e position, et pour limiter la casse, c'est lui qui parle, a dû négocier un accord, ouvrez les guillemets, tenez-vous bien, vaccin contre données. Celui-ci consiste à fournir à Pfizer, donc suffisamment, par Pfizer à Israël, suffisamment de vaccins pour la population.
Alors là, ce qu'on comprend.
En échange, un volume considérable de toutes les données personnelles
oui,
de nos concitoyens.
Mais vous
moi je veux bien qu'on cite cet exemple, mais il est très caractéristique. Vous imaginez qu'on ait décidé d'échanger nos données personnelles. Alors, Israël,
mais,
un grand
attendez,
pays, mais enfin,
Thierry Breton, on parle de 9 millions d'habitants. Question, j'entends oui. votre démonstration.
Non, mais ce n'est pas une démonstration, ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Harari. Donc,
mais au fond,
vous voyez le regard qu'il porte lui-même, il vit en Israël sur
pas,
cette démarche.
Mais est-ce que ça ne raconte
c'est
pas aussi
incroyable.
Le problème qu'a l'Europe de se confronter avec ce pays qui, au fond, permet à ses habitants de reprendre une vie normale
mais
tout
attendez,
simplement.
Attendez.
C'est ce que tout le monde dit autour de nous.
Oui, mais...
Comment vous confrontez à ça?
Alors voilà, je vais vous dire, je vais vous répondre très précisément. Israël, donc, était dans l'état très difficile, que rappelle M. Harari. Comme la Grande-Bretagne, l'un des pays les pires sur cette première phase. Il est très critique sur la façon, et du reste, ça s'est traduit en nombre de morts. L'un des plus élevés de la planète, comme il dit. Voilà, donc ils atteignent l'immunité connective, sans doute, 2 ou 3 mois avant nous. Mais ils ont vécu 1 an d'une situation tragique. Fallait-il sans doute, effectivement, qu'ils en passent par là?
Ils
mais voyez-vous,
aussi...
en Europe, jamais,
je parle à l'industriel.
Jamais on aurait fait ça
Je parle
en
à
Europe.
L'industriel.
Voyez-moi, Monsieur Darmon. Jamais.
Thierry Breton, je parle aussi
et
à l'industriel que vous êtes.
3 mois de retard, c'est vrai que ça compte.
Voilà.
C'est vrai qu'on se bat pour les raccourcir. Mais
voilà.
C'est de ça dont on parle.
Parce que la question, c'est de l'anticipation. Je parle à l'industriel
c'est
que
bien
vous
pour ça que je vous dis que mon objectif, c'est
anticipé.
Bien pour ça que je vous dis, voilà, on est en mars, mon objectif, c'est la fin de l'été. Voilà.
Mais s'agissant du Royaume-Uni, les Britanniques, eux, n'ont pas donné leurs données personnelles à Pfizer ou à qui que ce soit d'autre. En revanche, ils ont effectivement pris de l'avance. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une question de mentalité ? C'est-à-dire que nous, on placerait le principe de précaution beaucoup plus haut et que les Britanniques, eux, ont été beaucoup plus rapides.
C'est une très bonne question.
Ils ont vacciné partout, tous les jours.
C'est une très bonne question. Et la relation au peuple britannique est un grand peuple. Avec son système de santé, la NHS est tout à fait particulier. En Grande-Bretagne, on a tout de suite trouvé 400 000 personnes volontaires pour aller se faire vacciner tout de suite et pour tester le vaccin. On n'était pas exactement dans la même situation de l'autre côté de la Manche, vous le savez. Et donc, c'est vrai qu'il y a une relation, je dirais, avec son système de santé qui est différente, qui a permis certainement d'aller plus vite, je vous le concède. Il n'en demeure pas moins que les Britanniques ont démarré cinq ou six semaines avant nous, sur de l'AstraZeneca, précisément. Je rappelle du reste qu'il avait été mis en œuvre par l'Université d'Oxford. Et donc, vous retrouvez donc, effectivement, toujours ces délais de six semaines. À partir du moment où on double les capacités, je pense qu'il faut vraiment prendre en tête cette dynamique, cette cinétique. Bien sûr, à un instant T, j'entends et je vois toutes ces critiques, ces comparaisons. Je voudrais simplement que, aujourd'hui, grâce à votre émission, on puisse juste s'élever un tout petit peu. Je le dis, on aura encore quelques semaines difficiles, mais voilà l'état de la situation et comparaison ne vaut pas raison.
Merci, on se retrouve tout de suite avec vous Thierry Breton.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Thierry Breton, commissaire européen, question de Nicolas Barré.
Oui, cette semaine, la Commission européenne doit prendre des décisions au sujet du pass sanitaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Et puis concrètement, quand est-ce qu'il sera mis en place ?
Bon, d'abord, on appelle ça un certificat vert numérique qui sera donc une proposition législative. Hein. Il va être présenté, proposé dès mercredi 17 mars. Et donc, il doit être applicable. C'est un règlement qu'on va proposer. Donc, il doit contenir des informations extrêmement précise mais simple. Des informations qui vont indiquer qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19 ou qu'elle a guéri du Covid-19 ou qu'elle a reçu un résultat négatif au test. Il sera donc, pour nos auditeurs, c'est très important, il sera soit sous forme électronique, soit sous papier. Il y en a qui n'ont pas envie de mettre ça sur leur smartphone et c'est leur droit. Il y aura un QR code. Il sera évidemment gratuit, il sera évidemment dans la langue de chaque pays d'origine. Il y aura aussi une traduction en anglais si jamais on veut se déplacer dans d'autres pays et c'est fait pour ça. Il sera sûr et sécurisé et il sera valable dans tous les pays de l'Union européenne.
À partir de quand ?
Donc il faut en gros, avant l'été évidemment, donc à partir du moment où on va le mettre, il faut évidemment, c'est un acte législatif, donc on travaille pour que ce soit fait avant juin.
Il y a une lecture qui a été faite ces jours-ci, entre tous les pays, entre tous les membres de la Commission, et vous êtes tombé d'accord sur ce pass sanitaire.
C'est pour ça que je vous donne maintenant son objectif. Je rappelle qu'en même temps, il faut faire très attention, parce qu'il faut évidemment qu'on ait un maximum de personnes qui puissent avoir accès au vaccin. C'est pour ça que je remets tout ça dans la dynamique vaccinale. Je le redis à nos auditeurs, parce que peut-être n'ai-je pas été assez précis, au deuxième trimestre, on va faire en gros 100 millions de doses sur le premier trimestre. Au second trimestre, c'est en gros 100 millions de doses par mois. C'est-à-dire qu'on a 300 millions de doses qui vont arriver. Au troisième trimestre, au quatrième trimestre, c'est 900 millions de doses. Donc, vous voyez l'accélération. Donc, évidemment, il faut que ce pass sanitaire arrive. On est fin juin, je crois que c'est un bon objectif. On est avant l'été. Pour moi, c'est absolument primordial qu'on fasse tout pour préserver la saison touristique. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Et donc, à ce moment-là, on aura quand même une situation vaccinale, 400, donc fin du deuxième trimestre, on a 400 millions de doses distribuées. Donc on est plus dans le même monde. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette tendance. Et puis ensuite, évidemment, la capacité, ce qui ne sera pas uniquement. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le terme passeport. C'est vraiment pour nous, c'est un certificat. Ça ne veut pas dire pour autant, c'est les États qui vont décider en fonction de l'utilisation qui pourra en être faite. Ça peut être par exemple des compagnies aériennes, elles auront leurs exigences. Ça peut être pour rentrer dans une salle de spectacle, il y aura des exigences. Moi, je pousse aussi beaucoup pour qu'on ait, une offre assez large. Alors, il y a des tests, évidemment. Il y a des tests aussi antigènes, des tests rapides qui devront être proposés à ceux qui ne souhaitent pas ou qui n'ont pas pu, c'est leur raison personnelle, bénéficier du vaccin. Et donc, on travaille à cette offre complète pour pouvoir recommencer le plus vite à avoir une vie normale.
Et donc, ça veut dire que l'objectif, effectivement, vous l'avez mentionné, c'est de pouvoir lancer la saison touristique. Beaucoup de pays ont
déjà fait pression. Ah oui, c'est vraiment l'objectif.
On conclut d'ailleurs des accords, même une fois de plus, à part, de leur côté. Italie, Grèce, Chypre, en particulier, entre autres, avec Israël.
Je m'entretiens avec tous les ministres concernés, et c'est vrai, et je les comprends, mais c'est pour ça que... Oui, bien sûr, et c'est pour ça qu'on veut avoir exactement, je dirais, ce schéma tel que je viens de vous le décrire de façon très précise, commun et partagé, et de façon, encore une fois, à harmoniser notre système. Vous savez, je rappelle toujours à nos auditeurs que nous sommes un continent, et que quand on est un continent, il faut tenir compte aussi de nos différences. C'est le cas aussi aux États-Unis, où dans certains États, il y a des règles qui sont différentes que dans d'autres. Il faut qu'on accepte le fait que nous sommes un continent. En ce qui me concerne, je pense que c'est une force.
Thierry Breton, la réaction donc, du commissaire européen que vous êtes, mais aussi de l'ancien ministre français au Pays de Pasteur, nous n'avons pas su produire de vaccins, c'est une déception. Comment l'expliquez-vous ?
Alors là encore,
avant de passer à autre
là
chose,
encore, je reconnais concluant. Évidemment cette... comment dirais-je allez, je vais utiliser le mot, ce nationalisme derrière. Je m'inscris en faux contre ça.
Souverainisme, disent.
Non, parce que je vois tellement de là où je suis qu'il n'y a pas un pays au monde seul qui peut y arriver. Je parlais tout à l'heure de la Russie, ils vont avoir besoin de nous. Je parle aussi, évidemment, des États-Unis. On est extrêmement imbriqués les uns les autres. Il n'y a pas un seul, aujourd'hui, des vaccins que nous utilisons qui a été développé par un seul pays. Ce sont des chaînes complètes. Donc, quand on parle, évidemment, par exemple, des vaccins qui fonctionnent aujourd'hui, vous voyez, il y a des biotech, mais derrière, ils s'associent à des grands groupes, parce que, précisément, c'est ça
le
qui fait qu'on va y arriver.
Fort, bien donc, sûr. Non, mais j'entends, je comprends,
mais j'entends,
mais
non, mais j'entends
fort,
très bien. J'entends que nous sommes, évidemment, comme vous le rappeliez à juste titre, du reste de pays de Pasteur et de beaucoup d'autres grands scientifiques. Du reste, ça me fait plaisir, du reste, que vous les mettiez à l'honneur parce qu'il le mérite et c'est ça notre pays aussi. Mais voilà, on est en train de travailler aussi sur des vaccins à protéines recombinantes qui vont être très utiles dans la deuxième phase. Parce que, voyez-vous, j'ai confiance, et je le dis encore ce matin, que les États-Unis et l'Europe seront vaccinés à la fin de l'été. On sera vaccinés. Mais le reste du monde, on représente 10% de la population. La Chine, ils sont qu'à 50 millions aujourd'hui, sur une population de 1,3 milliard. La Russie, ils sont qu'à 5 millions. Et l'Afrique ne démarre qu'à peine. Il faudra donc évidemment que nous, Américains et Européens, eh bien, on prenne nos responsabilités, en tout cas moi, de mon côté, je fais en sorte qu'on s'en donne les moyens. Alors, 3 milliards de capacité de production à la fin de cette année. Aux États-Unis, à peu près 2 milliards et demi. On aura entre 5 et 6 milliards de capacité de production entre les États-Unis et l'Europe. J'ai pas peur de vous le dire aujourd'hui. C'est de là d'où viendra le salut de cette crise. Ça nous donne beaucoup de responsabilités.
Thierry Breton, on vous a entendu ce matin et toute cette mise en perspective, effectivement, est passionnante. À travers votre portefeuille, vous portez donc les enjeux de la souveraineté européenne. La crise a montré à quel point nous étions dépendants d'autres régions du monde pour les médicaments, mais aussi pour l'électronique, les microprocesseurs. Comment l'Union européenne, sur ces sujets, peut-elle retrouver l'autonomie ?
Alors d'abord, nous avons procédé à une analyse très précise, et notamment au regard de cette crise. Vous vous en souvenez peut-être, puisque je m'en étais entretenu avec vous, m'aviez invité à l'époque. J'avais expliqué il y a exactement un an la stratégie industrielle de l'Europe. On Absolument. Rentrait à l'époque, c'était le 11 mars. On rentrait à l'époque dans la pandémie. Il y a un an pratiquement jour pour jour. Et donc cette stratégie industrielle, elle repose évidemment pour nous sur trois axes qui sont très importants. La décarbonation, la transition numérique et la résilience. C'est sur ce troisième volet, évidemment, que vous m'invitez à vous répondre. Évidemment, on a regardé tout ce qui se passait sur la résilience, notamment au regard de la crise. Et donc, je vais représenter au Parlement européen, d'ici quelques semaines, donc la stratégie industrielle revisitée à l'aune de ce que nous avons vécu, en particulier sur, vous l'avez rappelé, les médicaments, et sur un certain nombre d'éléments critiques. Donc, on a fait cette liste d'éléments qui sont critiques pour notre souveraineté. Donc il y a des médicaments, on en a abondamment parlé, et croyez-moi qu'on sera dans les perspectives que je vous ai données, j'ai confiance qu'on atteigne ces objectifs dès la fin de cette année. Il y aura évidemment, vous l'avez rappelé, tout ce qui concerne la technologie et les technologies de l'information, et notamment effectivement les semi-conducteurs. Vous savez que c'est un combat qui est très important pour moi, et notamment dans notre capacité à construire, à bâtir, à faire des processeurs. Alors je dis un mot très technique peut-être, mais mais en les gravant en dessous de 5 nanomètres, c'est-à-dire 5 milliardièmes de mètres, et c'est très important parce que c'est vraiment notre avenir. On a cette capacité, on a créé une alliance précisément pour les semi-conducteurs. C'est vrai aussi pour notre souveraineté en matière de connectivité, c'est vrai aussi pour notre souveraineté en matière
de matériaux. Les Chinois restent toujours menaçants
en matière de matériaux critiques. Hein. Nous avons ces matériaux critiques en Europe. Il faut réouvrir des mines en respectant évidemment la biodiversité et l'environnement. Et quant à la 5G, je le répète, nous avons cette chance extraordinaire d'avoir aujourd'hui en Europe les deux premiers groupes en matière de fabrication de 5G. C'est l'Europe aujourd'hui qui est en tête avec les brevets et le nombre de contrats 5G. Et j'ai bien l'intention qu'on le reste.
On se retrouve avec Thierry Breton pour la quatrième partie de ce grand rendez-vous.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Michaël Darmon.
Et Thierry Breton, commissaire européen. Thierry Breton, cette semaine, Europe 1 était avec Jean-Rémy Baudot, notre reporter, en Pologne, dans une ville, Krasnik, qui est ouvertement anti-LGBT. Son reportage était stupéfiant. On écoute.
Nous pensons que certaines pratiques de ce milieu sont nuisibles. La sexualisation précoce des enfants, la sexualité gay. Nous refusons que les maternelles soient encouragées à la pornographie. Notre démarche ne discrimine personne. Nous n'avons peur de personne. Mais nous avons peur de l'influence de ces gens.
Voilà, on retrouvera ce reportage dans Canal du Monde à 13h sur Europe 1. La Pologne qui encourage des villes ouvertement, officiellement anti-LGBT, qu'est-ce que le commissaire européen répond ?
Deux choses. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un continent. Chacun gère son État comme il pense devoir le faire. Je le redis encore une fois, et je vais répondre très précisément à votre question. Vous avez des États aux États-Unis où vous entendez des choses incroyables sur l'avortement, sur la peine de mort, d'autres non. Voilà, ça n'excuse pas cela. Du reste, j'irai moi-même en Pologne la semaine prochaine et je rencontrerai le Premier ministre. Le deuxième élément, c'est que le Parlement européen a voté à une très 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 large majorité une motion pour s'exprimer sur ce point.
Nicolas Barré.
Thierry Breton, la question de la dette est au cœur des débats. Vous avez été un des premiers à porter ce sujet
et je continue.
Dans l'opinion. Alors face à cette montagne de dette dont on se demande parfois comment on va pouvoir la rembourser, quelle perspective peut-on donner aux Européens et aux Français en particulier qui ne soit pas une perspective déprimante ?
Non, d'abord il y a suffisamment de raisons d'avoir aujourd'hui des idées sombres. Et je voudrais leur dire, je suis là ce matin parce que j'entends. Je vis toutes ces interrogations, ces préoccupations, ces craintes. Je les vis. Je les vis avec vous toutes et vous tous. Au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et c'est pour ça que je me bats avec tant d'énergie. Parce que, comme vous toutes et vous tous, je souhaite que ce soit le plus vite possible derrière
nous. Parce qu'on se demande comment vous faites avec tous les portefeuilles, tous les sujets que vous avez.
C'est aussi peut-être le privilège de l'âge et le fait d'avoir été préparé depuis longtemps à mener des missions difficiles. C'est en tout cas... C'est le hasard des choses. Peut-être fait-il bien les choses, peut-être le fait-il mal, je ne me pose pas la question. Mais parce qu'encore une fois, ces questions-là sont très importantes, mais je le redis, nous sommes maintenant vraiment au bout de cette phase et du tunnel, et on sait ce qu'il y a à faire. Alors évidemment, tout ça, Nicolas Barré, ça a un coût. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit qu'il fallait faire ce que l'actuel Premier ministre italien avait dit en son temps, whatever it takes,
Mario Draghi, quoi qu'il en coûte.
Je parle de Mario Draghi, évidemment, Monsieur Darmon. Évidemment qu'il a eu raison. Évidemment qu'on pousse pour ça. Évidemment, pendant cette période tellement inédite, elle va rester évidemment dans les livres d'histoire. C'est un tournant incroyable que nous sommes en train de vivre. On s'en sortira, mais bien sûr qu'il aura un coût. Et bien sûr qu'il faut prendre toutes les mesures, on parlait tout à l'heure du tourisme, pour aider pendant cette période qui, par définition, et Dieu soit loué, n'est que sera transitoire. Et bien ce coût, il faut évidemment le calculer, il a été calculé, il s'appelle plan de relance dans les États membres, en particulier en France, on l'a chiffré à 100 milliards. Pour nous, à la Commission européenne, et vous savez qu'avec Paolo Gentiloni, je me suis beaucoup battu, vous le savez, Monsieur Barré, pour qu'on ait un plan, évidemment, et que pour la première fois de son histoire, l'Union européenne s'endette. Sur 30 ou 50 ans. C'est une maturité très longue. Mais enfin, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on sauve nos acquis, puis on sauve, On sauve évidemment de nous-mêmes. Hein. Donc ça,
je dirais, il faudra des réformes difficiles pour alors, rembourser. Il faudra une fiscalité nouvelle.
Alors bien sûr qu'il faut se poser toutes ces questions. Mais je vais vous dire comment je pense en méthode qu'il faut se les poser. D'abord, il faut se les poser au bon moment. Et comme vous avez vu, on a repoussé d'un an les discussions sur les règles du pacte, et c'est bien. Ouais. Deuxièmement, il y a évidemment avant, il faut toujours, je dirais, veiller à ce que ces finances publiques soient le plus possible à l'équilibre. Et puis il y a cette dette. Alors j'aime pas l'appeler dette Covid, parce que sans ça, c'est un prétexte à tout et peut-être même n'importe quoi. Mais cette dette-là, évidemment, elle doit être traitée de façon différenciée, avec certainement des instruments différenciés et des maturités qui sont des maturités très longues. C'est-à-dire pour nos auditeurs, le fait qu'on va la rembourser sur très très longtemps avec, et c'est peut-être aussi, je dirais, une opportunité dans cette situation si particulière que nous vivons, le fait que nous ayons des taux d'intérêt qui sont pratiquement nuls, et donc on peut précisément faire en sorte qu'on ne fera pas supporter par les générations à venir le coût de la dette. Alors maintenant, évidemment, il faut avoir les instruments financiers pour les rembourser, donc il y en a deux aujourd'hui, mais il y en aura d'autres. D'abord, on ne va pas, et c'est vraiment quelque chose sur lequel moi je suis extrêmement vigilant, évidemment, il ne s'agit pas d'augmenter les impôts, contrairement à ce que certains disent, certainement pas. Il s'agit tout simplement de nous donner, on a le temps, hein, on va parler de 50 ans, hein, de donner des instruments qui, sur cette très longue durée, vont nous permettre d'avoir des ressources extérieures. Il y en a déjà deux qui viennent tout de suite à l'esprit et nos auditeurs vont les comprendre. D'abord, évidemment, cet ajustement des taxes carbone aux frontières, où évidemment, comme nous, on se donne des objectifs très ambitieux diminution du CO2 dans notre outil industriel, bah ceux qui voudraient venir sur le marché intérieur et qui n'ont pas les mêmes règles, bah ils vont payer la différence. C'est effectivement une sorte de taxe, de taxe verte. Et l'autre, c'est évidemment, dans cet espace informationnel dont vous savez qu'il m'est si cher et que pour lequel j'ai proposé deux règlements, le DSA et le DMA, qui pour enfin l'organisent, il faut l'organiser aussi sur l'impôt. Il est absolument indispensable qu'on paye un juste impôt. Là encore, on ne cible ni vise personne, mais tout le monde, tous ceux qui contribuent dans cet espace, devront payer un juste impôt. Et c'est évidemment normal, ça couvre le marché intérieur, et c'est une ressource propre qui sera aussi mise à contribution pour rembourser cet emprunt très long.
Thierry Breton, où l'on reparle de votre ami Mario Draghi.
Oui, vous l'avez cité tout à l'heure, Thierry Breton, Mario Draghi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, le banquier italien, qui fait alliance avec les populistes dans son pays. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est transposable, par exemple,
en France ? Ça change le modèle politique.
Écoutez, l'Italie est un pays qui a un système démocratique qui est l'un des plus vieux au monde, hein, on le sait.
Justement.
On a beaucoup appris de son système. Bon, depuis quelque temps, c'est vrai que c'est compliqué et c'est un courage immense que d'être Premier ministre en Italie. Et ça nécessite effectivement un doigté que des hommes d'exception comme Mario Draghi peuvent avoir. Et je suis très heureux qu'il ait accepté cette mission très importante pour l'Italie, mais je le dis aussi pour l'Europe. Mmh. Voilà, alors, j'étais, comme je l'ai dit tout à l'heure à M. Darmon, j'étais à Rome la semaine dernière, j'ai rencontré, évidemment, un membre du gouvernement, dont le numéro 2 de son gouvernement, qui se trouve être le numéro 2 de la Lega, qui est le ministre de l'Industrie, donc on a beaucoup discuté. On a discuté de façon très... alors, c'est la Lega, donc, il est plutôt dans l'Italie du Nord, lui, hein. Et donc, on a discuté de façon très constructive et notamment sur les sujets dont on a parlé dans la première partie de l'émission. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé une heure et demie avec lui, c'est pas Marine Le Pen.
Donc ?
Donc, il est très, très, très au fait des sujets, c'est pas Marine Le Pen.
Donc, vous dites qu'il a de la compétence, qu'il est...
Ah bah, il était au fait des sujets,
Connaît les dossiers, c'est ça que vous voulez dire, en fait ?
Il connaît bien ses dossiers, et puis... Puis sur les idées qui sont défendues, et que je ne conteste pas, encore une fois, hein, chacun défend ses idées et que défend le Rassemblement National, c'est pas Marine Le Pen.
Justement, vous étiez un proche de l'ancien président Jacques Chirac. Quand vous voyez le front républicain face au Rassemblement National qui se fissure, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Est-ce qu'il se fissure ? J'ai beaucoup d'amis, évidemment, qui sont chez les Républicains, vous l'avez rappelé, puisque j'étais très proche du président Jacques Chirac, et j'ai encore beaucoup d'amis. On est quelque part déjà dans une sorte de coalition aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Donc c'est peut-être ça la nature des choses, mais avec des personnes qui partagent toutes et tous... peut-être des appréciations un peu différentes sur la politique, mais qui ont en commun l'ensemble de nos valeurs. C'est ça qui est toujours important.
Mais lorsque vous entendez, juste en quelques secondes, quand vous entendez une partie des électeurs venant de la gauche dire en cas de duel Macron-Le Pen, je ne voterai pas, qu'est-ce que ça vous inspire en un
Attendons de voir ce qu'ils feront quand ils seront dans l'urne et qu'ils auront entendu une campagne électorale à nouveau avec les propos qui seront portés par le Front National. Encore une fois, chacun est libre, nous sommes en démocratie de les porter. Et puis après ça, chacun, son âme et conscience, prend la décision qui est la meilleure pour le pays.
Merci Thierry Breton, c'était votre grand rendez-vous. À dimanche.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve après le Flash Info Pascal Clark en balade avec. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour. Si vous aimez Lyon, si vous aimez le cinéma, si vous êtes judoka, c'est une balade pour vous. Avec Thierry Frémaux, dans un instant, à tout de suite.